de santé 88.4. Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé, votre magazine de prévention sur Radio Campus Rennes. Pour finir l'année, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview réalisée avec Florence Anezzo, psychanalyste et psychothérapeute qui installe son cabinet dans le quartier de la Poterie à Rennes. Pour introduire cette émission, je lui ai demandé comment la psychanalyse peut régler des conflits parentaux ou intérieurs chez l'adolescent.
Généralement, quand on est parent, on commet des erreurs. Hein, on en commet tous et toutes. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord, avant d'être parent, on est des êtres humains.
Bien sûr.
Et à un moment donné, quand un adolescent ne va pas bien, l'environnement extérieur, c'est-à-dire les parents, qui ont une influence très très forte. Alors dans ces moments-là, je le fais comme je fais avec les enfants, puisque pour moi, l'adolescence, on n'est pas encore des adultes. On est encore un pied dans l'enfance, un pied dans l'adolescence. Je dis tout simplement, on va travailler ensemble une première fois, mais la deuxième fois... J'aimerais voir les parents. J'arrive quand même une moyenne de 3-4 séances pour régler quelque chose.
Comment ça se passe ? On a tous un petit peu cette idée de Freud, du canapé.
Oui, ça me fait rire parce que c'est souvent l'idée effectivement, que vous puissiez avoir les gens dans ma vie privée que je peux rencontrer. Et dire, ah ouais, t'es psychanalyste. Ah oui, oh là là. Non, alors moi, il n'y a pas de canapé. Ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné au début du siècle. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas d'obédience freudienne. Je suis d'obédience jungienne, donc... Je ne critique absolument pas ce qu'a fait Freud, hein. Il a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'il pouvait. Moi, je mets très à l'aise. Hein. Quand vous venez à mon cabinet, vous avez du café, du thé, des petits gâteaux, c'est vraiment très, très convivial. Après, ça reste professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des limites qu'il faut poser, il y a un cadre, hein. On est obligé d'en avoir. Ceux qui diront le contraire, j'aimerais bien qu'on en puisse en parler pour débattre, parce que j'ai eu l'expérience de ça, de voir des thérapeutes, je dis thérapeute, hein, je ne dis pas psychothérapeute, ni psychanalyste, donc des thérapeutes qui travaillaient comme ça, qui faisaient leur thérapie avec leurs patients, puis le soir, ils allaient au restaurant. Et j'ai vu les dégâts collatéraux que ça a pu poser. Moi, je suis très dans le cadre, mais un cadre sympathique. Hein. C'est vraiment... Alors, le divan, il n'y en a pas. On s'assoit, on a un bureau. J'ai un petit bureau, tout petit, tout mignon. Il y a une chaise. Si on n'a pas envie de prendre la chaise, il y a un canapé. On peut se mettre sur le canapé. Si on a envie de s'allonger, on s'allonge. C'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Tout est possible. Mais à partir du moment où on se sent bien, moi, la récompense, c'est quand les gens disent... Oh, je me sens mieux, ça m'a fait du bien de vous voir. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est toujours ce qui se passe de toute façon.
Et une séance dure une heure ?
Une séance dure une heure. Elle ne durera pas moins, sauf si vraiment il y a quelque chose qui peut se passer et qui peut se passer du genre, oh là là, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je veux interrompre la séance. Mais ça aussi, ça ne m'est jamais arrivé.
Et très concrètement, comment ça se passe ? Les personnes viennent vous voir. La séance commence, vous leur posez des questions pour un peu comprendre, un petit entretien préalable pour comprendre un peu les souffrances de la personne. Ou alors c'est la personne qui doit se confronter à vous
Alors ça va dépendre des gens, là aussi. Hein. Parce qu'on est tous différents, et heureusement, vive la différence, et je le crie haut et fort aussi. On est tous différents, on n'est pas du tout face à la souffrance égaux, face à la communication non plus. Alors il y a des gens qui vont arriver, qui vont s'asseoir et qui vont tout me déballer en disant, voilà, ça va pas avec mon mari, par exemple, j'ai une vie de couple, j'ai un amant, etc., etc. Et puis d'autres qui vont rien dire, qui vont dire, écoutez, mais franchement, là, je suis embêtée, parce que c'est la première fois que je fais une démarche, je sais pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là aussi, je mets à l'aise, écoutez, on va faire tout simplement, vous me dites pourquoi vous êtes là. Et si on n'y arrive pas, là, je vais les aider à dire pourquoi ils sont là. Mais là encore, il faut vraiment démystifier hein, cette relation. Après, comme je dis, après, c'est vraiment très cadré. On peut pas se permettre, on est des professionnels hein, de la santé.
Alors, la psychanalyse, ça peut être nécessaire quand on va mal, hein, mais oui. Est-ce que c'est bien quand on va bien ?
Très bonne question. Bon, en général, quand on va bien, on ne fait pas de démarche, normalement. Ou alors, on le fait parce qu'on a envie de voir la tête de la psychanalyste. Ça peut arriver aussi.
Est-ce que vous le conseilleriez pour quelqu'un de le faire au moins une fois dans sa vie pour faire une sorte de bilan sur soi, sur soi-même ?
Non, Non, sincèrement, non, parce que c'est une démarche qu'on fait quand on sent qu'on doit la faire. Parce que vous savez, la psychanalyse, c'est très, très particulier. Enfin, la psychothérapie, la psychanalyse, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment au fond de soi. C'est, tiens, je vais pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux ? Après, il y a la psychanalyse qui est quand même la racine de toutes les démarches qui sont faites maintenant, hein, puisqu'on a, après, on a une multitude de thérapies, dont on avait un petit peu parlé tout à l'heure, de thérapies brèves, il y en a une multitude. Après, c'est le choix. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de choix. Hein. C'est peut-être un peu trop d'ailleurs, mais c'est pas grave parce que je sais que les gens reviennent à la psychanalyse. Alors après, j'ai envie de dire, est-ce que je peux le conseiller à quelqu'un qui a jamais eu de souffrance ? Est-ce que ça existe déjà ? Quelqu'un qui a jamais eu de souffrance ? Ouais. Non, on a tous des souffrances. Même si c'est super enfoui, et ça, je l'ai constaté bien des fois. Ça va aussi dépendre de chacun. Là encore. Hein.
D'accord. Pour parler un petit peu d'argent, combien coûte une séance ? Quel est le tarif ?
Une psychanalyse dure une heure. Et moi, j'ai mis en place, donc, en venant sur Rennes, j'ai eu l'idée de mettre en place justement des consultations pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller mettre 50 euros dans une consultation. J'ai établi des tarifs pour les étudiants et pour les gens qui sont en difficulté financière, enfin, qui sont demandeurs d'emploi. Donc, on oscille entre 20 et 30 euros les séances. 20 étudiants et 30 euros pour les chômeurs.
D'accord, très bien.
On se retrouve tout de suite après une pause musicale avec Charlotte Gainsbourg et le titre Paradisco.
We get bored of breaking windows.
De retour dans Enjeux de santé avec Florence Anezzo pour la suite et fin de cette interview. Elle nous explique le rôle du théâtre d'improvisation dans la psychanalyse.
Donc le théâtre d'improvisation, donc, c'est quelque chose de tout à fait ludique. C'est un mélange de jeu de rôle avec sa spontanéité, hein, la spontanéité du jeu de rôle, et la profondeur de la psychanalyse. Tout en sachant que ce n'est pas la psychanalyse, on est bien d'accord. Hein, on ne fait pas un mélange, mais toi, que je suis psychanalyste, je m'en sers quand même.
Un petit peu, oui.
Voilà,
bien sûr.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Donc les problèmes vont alors être mis en scène dans le but de faire disparaître par la suite. C'est le but, hein. Il y a un problème, vous n'avez pas confiance en vous, hop, on va faire des mises en scène pour que cette confiance revienne. Dans sa version psychanalytique actuelle, cette méthode se pratique en séance de groupe où le patient-acteur joue un conflit et peut vivre une libération émotionnelle. Mais ça s'est inclus dans mes séminaires, hein, de toute façon. Donc l'efficacité thérapeutique repose ici sur la fiction. Le jeu permet de lever certains blocages et de dédramatiser des situations qui ont été par le passé traumatisantes.
Mmh.
D'accord.
Mais alors, si je peux me permettre, en fait, les personnes qui viennent donc pour du théâtre d'impro, donc elles sont en groupe, on va imaginer, je sais pas moi, 7 personnes qui ont des problèmes complètement différents. Est-ce que ça peut marcher quand on est dans l'improvisation?
Oui, ça peut marcher, bien sûr, puisque je suis psychanalyste, je suis formée pour ça. Donc par exemple, si je vois que on peut pas s'accorder ensemble, je ferai des séances à part. Il y a aussi de la méditation, hein, la sophrologie, de la détente. Et ça, je passe le message aussi pour tous les étudiants là, actuellement qui sont en train de crocher dedans. Pour 10€, ils peuvent venir pour faire une séance, par exemple. C'est quand même...
D'accord, donc c'est très très abordable.
Ben oui, mais c'est le but. Hein. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir la médecine des riches.
Et la médecine des pauvres.
Et voilà, je suis pas d'accord avec ça.
Alors, qu'est-ce que l'énéagramme ?
L'énéagramme vient du grec énéa, donc c'est le chiffre 9. Gramma, dessin. Donc la figure à 9 points représente les 9 types de personnalités. Il nous offre une description de la psyché humaine qui permet de nous percevoir tels que nous sommes et d'évoluer de manière multiple avec des visions du monde différentes en fonction de notre parcours. Cette analyse caractérielle en 9 points va permettre de déterminer nos compulsions essentielles. Donc la colère, le besoin, le sentiment d'échec, l'obsession de l'idéal.
Pour finir, Florence Anezzo nous parle de méditation.
Dans la vie, tout nous ramène à l'extérieur. Nos sens, les autres, le travail, les études, la relation amoureuse, et rien ne nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes finalement. Et comprendre ça, c'est comprendre l'intérêt de la méditation. Comprenez bien que la méditation n'a rien à voir avec la vie de moine ou ascétique qui cherche à se couper du monde comme c'est trop souvent perçu. Nul besoin de changer votre vie pour s'ouvrir à la méditation. Il n'y a pas besoin de changer sa vie. Hein.
La méditation, c'est quelque chose de très très simple.
C'est une qualité qu'on a en soi, sauf qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. C'est un détachement, une vigilance intérieure et une pleine conscience dans le moment présent. En fait, c'est ça. Qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, quoi. Une demi-heure par jour, méditation.
C'est important de prendre le temps, de se recentrer,
alors,
de se reconcentrer.
C'est très très important parce que les médecins qui écoutent ne vont pas contredire. Ça redynamise le cerveau. Au niveau hormonal, ça régule les hormones, ça régule la thyroïde. Ça a un impact aussi au niveau cardiaque. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus concernant justement les jeunes et les étudiants. Et on se rend compte que lorsque des étudiants ou des jeunes méditent, eh bien, ils sont beaucoup mieux dans leur tête. Leur taux de réussite à l'examen augmente. Et il y a un tas de bonnes choses qui se passent. Ils sont beaucoup moins stressés.
Merci beaucoup, Florence Anezzo.
Ben écoutez, merci à vous. Et puis, merci à Radio Campus.
C'était Enjeux de santé sur le 88.4. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'ARS et la région Bretagne. On se retrouve en 2012 pour de nouvelles émissions. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes. À bientôt.